Léon Bloy, le désespéré. Chapitre 1. Quand vous recevrez cette lettre, mon cher ami, j'aurai achevé de tuer mon père. Le pauvre homme agonise et mourra, dit-on, avant le jour. Il est 2 heures du matin. Je suis seul dans une chambre voisine, la vieille femme qui le garde m'ayant fait entendre qu'il valait mieux que les yeux du moribond ne me rencontrassent pas et qu'on m'avertirait quand il en serait temps. Je ne sens actuellement aucune douleur ni aucune impression morale nettement distincte d'une confuse mélancolie, d'une indécise peur de ce qui va venir. J'ai déjà vu mourir, et je sais que demain ce sera terrible. Mais en ce moment, rien. Les vagues de mon cœur sont immobiles. J'ai l'anesthésie d'un assommé. Impossible de prier, impossible de pleurer, impossible de lire. Je vous écris donc, puisqu'une âme livrée à son propre néant n'a d'autre ressource que l'imbécile gymnastique littéraire de le formuler. Je suis parricide, pourtant. Telle est l'unique vision de mon esprit. J'entends d'ici l'intolérable hoquet de cette agonie, qui est véritablement mon œuvre. Œuvre de damné, qui s'est imposée à moi avec le despotisme du destin. Ah ! Le couteau eût mieux valu, sans doute, le rudimentaire couteau du Chourineur filial. La mort, du moins, eût été pour mon père sans préalables années de torture, sans le renaissant espoir toujours déçu de mon retour à l'auge à cochon d'une sagesse bourgeoise. Je serais fixé sur la nature légalement ignominieuse d'une probable expiation. Enfin, je ne resterai pas avec cette hideuse incertitude d'avoir eu raison de passer sur le cœur du malheureux homme pour me jeter aux réprobations et aux avanies démoniaques de la vie d'artiste. Vous m'avez vu, mon cher Alexis, coiffé d'une ordure cylindrique, dénué de vêtements, de souliers, de tout, enfin, excepté de la péritive espérance. Cependant, vous me supposiez un domicile conjecturable, un semblant de subsides intermittents, une mamelle quelconque au flanc des reins de ma chienne de destinée, et vous ne connûtes pas l'irréprochable perfection de ma misère. En réalité, je fus un des 10 000 retraitants sempiternels de la famine parisienne, à qui manquera toujours un Xénophon, qui prélève l'impôt de leur fringale sur les déjections de la richesse, et qui assaisonnent à la fumée de marmites inaccessibles et pénombrales la croûte de pain symbolique récoltée dans un urinoir. Tel a été le vestibule de mon existence d'écrivain. Existence à peine changée, d'ailleurs, même aujourd'hui que je suis devenu quasi célèbre. Mon père le savait, et en mourait de honte. Excellent théologien maçonnique, adorateur de Rousseau et de Benjamin Franklin, toute sa jurisprudence critique était d'arpenter le mérite à la toise du succès. À ce point de vue, Dumas père et Béranger lui paraissaient des abreuvoirs suffisants pour toutes les soifs esthétiques. Il me chérissait cependant, à sa manière. Avant que j'eusse fini de baver dans mes langes, avant même que je vinsse au monde, il avait soigneusement marqué toutes les étapes de ma vie, avec la plus géométrique des sollicitudes. Rien n'avait été oublié, excepté l'éventualité d'une pente littéraire. Quand il devint impossible de nier l'existence du chancroïde, sa confusion fut immense et son désespoir sans bornes. Ne discernant qu'une révolte impie, dans le simple effet d'une intransgressable loi de nature, mais absolument pénétré de son impuissance, il me donna néanmoins une dernière preuve de la plus inéclairable tendresse en ne me maudissant jamais tout à fait. Mon Dieu, que la vie est une horrible dégoûtation! et combien il serait facile aux sages de ne jamais faire d'enfants. Quelle idiote rage de se propager! Une continence éternelle serait-elle donc plus atroce que cette invasion de supplices qui s'appelle la naissance d'un enfant de pauvre? Déjà, dans toutes les conditions imaginables, un père et un fils sont comme deux âmes muettes qui se regardent de l'un à l'autre au bord de l'abîme du flanc maternel, sans pouvoir presque jamais ni se parler ni s'étreindre, à cause, sans doute, de la pénitentielle immondicité de toute procréation humaine. Mais si la misère vient à rouler son torrent d'angoisse dans ce lit profané, et que l'anathème effroyable d'une vocation supérieure soit prononcé, comment exprimer l'opaque immensité qui les sépare? Nous avions depuis longtemps cessé de nous écrire, mon père et moi. Hélas, nous n'avions rien à nous dire. Il ne croyait pas à mon avenir d'écrivain, et je croyais moins encore, s'il eût été possible, à la compétence de son diagnostic. Mépris pour mépris. Enfer et silence des deux côtés. Seulement, il se mourait de désespoir, et voilà mon parricide. Dans quelques heures, je me tordrai peut-être les mains en poussant des cris, quand viendra l'énorme peine. Je serai ruisselant de larmes, dévasté par toutes les tempêtes de la pitié, de l'épouvante et du remords. Et cependant, s'il fallait revivre ces 10 dernières années, je ne vois pas de quelle autre façon je pourrais m'y prendre. Si ma plume de pamphlétaire catholique avait pu conquérir de grandes sommes, mon père, le plus désintéressé des pères, aurait fait 100 lieues pour venir s'asseoir devant moi et me contempler à l'aise dans l'auréole de mon génie. Mais il était de ma destinée d'accomplir moi-même ce voyage, et de l'accomplir sans un sou, pour l'abominable contemplation que voici. Vous ignorez, ô romancier plein de gloire, cette parfaite malice du sort. La vie a été pour vous plus clémente. Vous reçûtes le don de plaire, et la nature même de votre talent, si heureusement pondéré, éloigne jusqu'au soupçon du plus vague rêve de dictature littéraire. Vous êtes, sans aucune recherche, ce que je ne pourrai jamais être, un écrivain aimable et fin, et vous ne révolterez jamais personne. Ce que, pour mon malheur, j'ai passé ma vie à faire. Vos livres, portés sur le flot des éditions innombrables, vont d'eux-mêmes dans une multitude d'élégantes mains qui les propagent avec amour. Heureux homme qui m'avez autrefois nommé votre frère, je crie donc vers vous dans ma détresse, et je vous appelle à mon aide. Je suis sans argent pour les funérailles de mon père, et vous êtes le seul ami riche que je me connaisse. Gênez-vous un peu, s'il le faut, mais envoyez-moi, dans les 24 heures, les 10 ou 15 louis strictement indispensables pour que la chose soit décente. Je suis isolé dans cette ville où je suis né, pourtant, et où mon père a passé sa vie, en faisant, je crois, quelque bien. Mais il meurt sans ressources, et je ne trouverai probablement pas 50 centimes dans une poche de compatriote. Donnez-vous la peine de considérer, mon favorisé confrère, que je ne vous ai jamais demandé un service d'argent, que le cas est grave et que je ne compte absolument que sur vous. Votre anxieuse amie, Cain Marchenoir. Chapitre 2. Cette lettre, aussi maladroite que dénuée d'illusions juvéniles, était adressée rue de Babylone à monsieur Alexis Dulaurier, l'auteur célèbre de « Douloureux mystère ». Les relations de celui-ci avec Marchenoir dataient de plusieurs années, relations troublées, il est vrai, par l'effet de prodigieuses différences d'idées et de goûts, mais restées à peu près cordiales. À l'époque de leur rencontre, Dulaurier, non encore entré dans l'étonnante gloire d'aujourd'hui, vivait obscurément de quelques nutritives leçons triées pour lui, avec le plus grand soin, sur le volet de ses relations universitaires. Il venait de publier un volume de vers byroniens de peu de promesses, mais suffisamment poissé de mélancolie pour donner à certaines âmes liquides le miracle du saule de Musset sur le tombeau d'Anacréon. Aimable et de verve abondante, tel qu'il est encore aujourd'hui, sans l'érésipèle de vanité qui le défigure depuis ses triomphes, son petit appartement du jardin des plantes était alors le lieu d'un groupe fervent et sénaculaire de jeunes écrivains, dispersés maintenant dans les entrecolonnements braineux de la presse à 15 centimes. Le plus remarquable de tous était cet encombrant zigane, Armilcar l'écuyer, que ces goujates vaticinations antireligieuses ont rendu si fameux. Alexis du Laurier, ami, par choix, de tout le monde, et par conséquent, sans principe comme sans passion, comblé des dons de la médiocrité, cette force à déraciner des Himalayas, pouvait raisonnablement prétendre à tous les succès. Quand l'heure fut venue, il n'eut qu'à toucher du doigt les murailles de bêtises de la grande publicité pour qu'elles tombassent aussitôt devant lui, et pour qu'il entrât, comme un Antiochus, dans cette forteresse imprenable aux gens de génie, avec les 120 éléphants futiles chargés de son bagage littéraire. Sa prépondérante situation d'écrivain est désormais incontestable. Il ne représente rien moins que la littérature française. Bardé de 3 volumes d'une poésie bleuâtre et frigide, en excellent acier des plus recommandables usines anglaises, au travers de laquelle il peut défier qu'on n'atteigne jamais son cœur, inventeur d'une psychologie polaire, par l'heureuse addition de quelques procédés de Stendhal au dilettantisme critique de M. Renan, sublime déjà pour les haïsseurs de toute virilité intellectuelle, il escalada enfin les plus hautes frises en publiant les 2 premiers romans d'une série dont nul prophète ne saurait prévoir la fin, car il est persuadé d'avoir trouvé sa vraie voie. Il faut penser à l'incroyable anémie des âmes modernes dans les classes dites « élevées », les seules âmes qui intéressent du Laurier et dont il ambitionne le suffrage, pour bien comprendre l'eucharistique succès de cet évangéliste du rien. Raturer toute passion, tout enthousiasme, toute indépendance généreuse, toute indécente vigueur d'affirmation, fendre en 4 l'ombre de poils d'un sénile fantôme de sentiment, faire macérer en 300 pages d'impondérables délicatesses amoureuses dans l'huile de myrrhe d'une chaste hypothèse ou dans les aromates d'un élégant scrupule, surtout ne jamais conclure, ne jamais voir le pauvre, ne jamais s'interrompre de gémir avec Lord Byron sur l'aridité des joies humaines. En un mot, ne jamais écrire. Telles furent les victuailles psychologiques offertes par du Laurier à cette élite dirigeante engraissée dans tous les dépotoirs révolutionnaires, mais qui, précisément, expirait d'une inanition d'aristocratie. Après cela, que pouvait-on refuser à ce nourrisseur? Tout, à l'instant, lui fut prodigué. L'autorité d'un augure, les éditions sans cesse renouvelées, la survente des vieux brouillons, les prix académiques, l'argent infini, et jusqu'à cette croix d'honneur si polluée, mais toujours désirable, qu'un artiste fier, à supposer qu'il l'obtint, n'aurait même plus le droit d'accepter. Le fauteuil d'immortalité lui manque encore, mais il l'aura prochainement. Dût-on faire crever 30 d'académiciens pour lui assurer des chances? On ne voit guère qu'un seul homme de lettres qui se puisse flatter d'avoir joui, en ces derniers temps, d'une aussi insolente fortune. C'est Georges Otney, l'ineffable bossu millionnaire et avare, l'imbécile auteur du « Maître de forge », qu'une stricte justice devrait contraindre à pensionner les gens de talent dont il voit le salaire et idiotifie le public. Mais quelque vomitif que puisse être le succès universel de ce drôle, qui n'est, en fin de compte, qu'un sordide spéculateur, et qui peut-être se croit du génie, celui de Dulaurier, qui doit sentir la misère de son esprit, est bien plus révoltant encore. Le premier, en effet, n'a vu dans la littérature qu'une appétissante glandée dont son âme de porc s'est réjouie, et c'est bien ainsi qu'on a généralement compris sa fonction de faiseur de livres. Le second a vu la même chose, sans doute, mais, sagement, il s'est cantonné dans la clientèle influente et s'est ainsi ménagé une situation littéraire que n'eut jamais l'immense poète des Fleurs du Mal, et qui déshonore simplement les lettres françaises. Cette réserve faite, la pesée intellectuelle est à peu près la même des deux côtés, l'un et l'autre ayant admirablement compris la nécessité d'écrire comme des cochers pour être crus des automédons de la pensée. L'auteur de « L'irrévocable » et de « Douloureux mystère » est, par surcroît, travaillé de manies anglaises. Par exemple, on ne passe pas 10 minutes auprès de lui sans être investi de cette confidence, que la ville a traitée avec la dernière rigueur, et qu'il est, à peu de choses près, le plus à plaindre des mortels. Un brave homme qui venait de voir mourir dans la misère et l'obscurité un être supérieur, dont quelques journaux avaient à peine mentionné la disparition, s'indignait un jour de ce boniment d'un médiocre à qui tout a réussi. « Après tout, dit-il en se calmant, il y a peut-être quelque sincérité dans cette vile blague. Ce garçon a l'âme petite, mais il n'est ni un sot ni un hypocrite, et par moments, il doit lui peser quelque chose de la monstrueuse iniquité de son bonheur. » Chapitre 3. L'imploration postale de ce marche noir, au prénom si étrange, était donc doublement inhabile. Elle étalait une complète misère, la chose du monde la plus inélégante aux yeux d'un pareil dandy de plume, et laissait percer dans les dernières lignes un vague mais irrémissible mépris, dont l'infortuné pétitionnaire, inexpert au maniement des vanités, et d'ailleurs anéanti, ne s'était pas aperçu. Il avait même cru, dans son extrême fatigue, pousser assez loin la flatterie, et il s'était dit, avec le geste de lancer un trésor à la mer, que son effrayante détresse exigeait un tel sacrifice. Dulaurier et lui ne se voyaient presque plus depuis des années. Une sorte de curiosité d'esprit les avait poussés naguère l'un vers l'autre. Pendant des saisons, on les avait vus toujours ensemble. La misanthropie enflammée du bohème, qui passait pour avoir du génie, faisant repoussoir à la sceptique indulgence de l'arbitre futur des hautes finesses littéraires. Dès la première minute de succès, Dulaurier sentit merveilleusement le danger de remorquer plus longtemps ce requin, aux entrailles rugissantes, qui allait devenir son juge, et suavement il le lâcha. Marche Noir trouva la chose très simple, ayant déjà pénétré cette âme. Ce ne fut ni une rupture déclarée, ni même une brouille. Ce fut, de part et d'autre, comme une verte poussée d'indifférence entre les intentions inefficaces dont cette amitié avait été pavée. On avait eu peu d'illusions, et on ne s'arrachait aucun rêve. De loin en loin, une poignée de main et quelques paroles distraites quand on se rencontrait. C'était tout. D'ailleurs, le rayonnant Alexis montait de plus en plus dans la gloire. Il devenait empyréen. Qu'avait-il à faire de ce guenilleux brutal qui refusait de l'admirer? Un jour, cependant, Marche Noir ayant réussi à placer quelques articles éclatants au Basile, journal pituiteux à immense portée, dont le directeur avait eu passagèrement la fantaisie de condimenter la mangeoire. Dulaurier se découvrit tout à coup un regain de tendresse pour cet ancien compagnon des mauvais jours, qui se présentait en polémiste et qui pouvait devenir un ennemi des plus redoutables. Heureusement, ce ne fut qu'un éclair. Le journal immense, bientôt épouvanté des témérités scarlatines du nouveau venu et de son scandaleux catholicisme, s'empressa de le congédier. L'exécuté Marchenoir vit se fermer aussitôt devant lui toutes les portes des journaux sympathiquement agités du même effroi. Et, plein de famine, évincé du festin royal de la publicité, pour n'avoir pas voulu revêtir la robe nuptiale des ripaillants maquereaux de la camaraderie, il replongea dans les extérieures ténèbres d'où ne purent le tirer deux livres supérieurs, étouffés sans examen sous le silence concerté de la presse entière. Le fatidique Dulaurier, qui n'avait jamais eu la pensée de secourir ce réfractaire d'une parcelle de son crédit de feuilletoniste influent, n'était, certes, pas homme à se compromettre en jouant pour lui les bons samaritains. Dans les rencontres peu souhaitées que leur voisinage rendait difficilement inévitables, il sut se borner à quelques protestations admiratives, accompagnées de gémissements mélodieux et d'affables reproches sur l'intransigeance, au fond pleine d'injustice, qui lui avait attiré cette disgrâce. Pourquoi se faire des ennemis? Pourquoi ne pas aimer tout le monde qui est si bon? L'évangile, d'ailleurs, auquel vous croyez, mon cher Caïn, n'est-il pas là pour vous l'apprendre? Il osait parler de l'évangile. Et c'était pourtant vers cet homme que le naufragé Marchenoir se voyait réduit à tendre les bras. Chapitre 4. Le jeune maître reçut la lettre dans son lit. Il avait passé la soirée chez la baronne de Poissy, la célèbre amphitryonne de tous les sexes, en compagnie d'un groupe élu de chenapans du premier Paris et de cabotins lanceurs de rayons. Il avait été étincelant, comme toujours, et même un peu plus. Dès 5 heures du matin, le Gilles Blas en avait répandu la nouvelle chez quelques marchands de vin du faubourg Montmartre, à 8 heures. Aucun employé de commerce ne l'ignorait plus. Le squameux chroniqueur nocturne laissait entendre, avec la pudique diaphanéité congruente à ce genre d'information, que la présence d'une jeune Norvégienne des fjords lointains, à la gorge liliale et à la virginité ductile, avait été pour quelque chose dans l'hérétisme d'improvisation et l'irrésistible ténor léger de nos derniers salons littéraires. En conséquence, il se réconfortait d'un peu de sommeil après cette lyrique dilapidation de son fluide. « Est-ce vous, François ?» dit-il d'une voix languissante, en s'éveillant au faible bruit de la porte de sa chambre à coucher, que le domestique entr'ouvrait avec précaution. « Oui, monsieur, c'est une lettre très pressée pour monsieur. » « C'est bien, posez-la ici. Ouvrez les rideaux et apportez du feu. Je vais me lever dans un instant. Il me semble que j'ai beaucoup dormi. Quelle heure est-il donc ?»« Monsieur, la demi de 8 heures venait de sonner quand le facteur est arrivé. » Dulaurier referma les yeux, et dans la tiédeur du lit, au grondement d'un excellent feu, s'immergea dans l'exquise ignavie matutinale de ces colons de l'heureuse rive du monde, pour qui la journée qui monte est toujours sans menace, sans abjection de comptoir ni servitude de bureau, sans la trépidation des coliques de l'échéance et le dissolvant effroi du créancier, sans tout le cauchemar des plafonnantes terreurs de l'expédient éternel. Ah, que le pauvre est absent de ces réveils d'affranchis, de ces voluptueux entrebâillements d'âmes entretenues, à la chantante arrivée du jour. Comme il est, alors, cimérien, télescopique, aboli dans l'ultérieure ténébrosité des espaces, le dolent famélique, le sale et grand pauvre, ami du Seigneur. La flûte pensante, qu'était Dulaurier, vibrait encore des bucoliques mondaines de la veille. L'édredon de Norvège ondulait mollement, alentour de son esprit, dans la grisaille lumineuse d'un demi-sommeil. Une jeune oie, venue du Cap Nord, épandait sur lui de chastes songes. Neige psychologique sur cette flottante imagination glacée. « Quelle pureté! Quelle âme fine !» murmurait-il en étendant la main vers la lettre. Très pressé, en cas d'absence, faire suivre. « C'est l'écriture de Marche Noire. Je le reconnais bien, là. Comme s'il n'y avait jamais eu rien de pressé dans la vie. » Il lut, sans aucune émotion visible, les quatre pages de cette écriture, droite et robuste, à la façon des dolmens, dont l'étonnante lisibilité a fait la joie de tant d'imprimeurs. Vers la fin, cependant, une alarme soudaine apparut en lui, accompagnée de gestes de détresse, aussitôt suivie de l'interprétative explosion d'une petite fureur nerveuse. « Il m'embête, ce misanthrope !» s'écria-t-il en rejetant la prose cruciale de son onéreux ami. « Me prend-il pour un millionnaire? Je gagne ma vie, moi. Il peut bien en faire autant. Eh, que diable! Son père ne sera pas jeté à la voirie, peut-être. Pourquoi pas les funérailles d'Espétion à ce vieil imbécile ?» Il s'habilla, mais sans enthousiasme. Sa journée allait être gâtée. « J'avais bien besoin de ça. Décidément, il n'y a de belles âmes que les mélancoliques et les tendres. Et ce Marche Noir est dur comme le diable. Qu'un ! C'est la seule idée spirituelle que son père ait jamais eue de le nommer ainsi. Mais que faire ? Si je ne lui réponds pas, je m'en fais un ennemi, ce qui serait absurde et intolérable. J'ai pu le blâmer pour son fanatisme et ses violences, dont j'ai vainement essayé de lui démontrer l'injustice, surtout lorsqu'il s'est attaqué d'une façon si sauvage à ce pauvre l'écuyer, qu'il devrait pourtant épargner, ne fût-ce que par amitié pour moi. Je me suis vu forcé, à mon grand regret, de m'écarter de lui, à cause de son insupportable caractère. Mais enfin, je ne l'ai jamais attaqué, moi. J'ai même dit du bien de lui, au risque de me compromettre, et je lui ai laissé voir assez clairement la pitié que m'inspirait sa situation. Il abuse aujourd'hui de ce sentiment. 10 ou 15 louis, il va bien. C'est à peine si je gagne 2 000 francs par mois. Je ne peux pas aller tout nu. D'un autre côté, si je lui réponds que je prends part à son chagrin, mais que je ne puis faire ce qu'il me demande, il ne manquera pas de m'accuser d'avarice. Tout est dangereux avec cet enragé. On est toujours trop bon, je l'ai bien dit souvent. Il faudrait pouvoir vivre dans la solitude, en compagnie d'âmes charmantes et incorporelles. Quelle lassitude est la mienne ! Déjà 10 heures et 500 lignes d'épreuves à corriger avant d'aller chez Desbois qui m'attend à déjeuner. Cette lettre m'exaspère. Il s'assit devant le feu, ses épreuves à la main, et se mit à considérer le volubile effort d'une flamme bleuâtre autour d'une bûche humide. « Mais au fait, c'est bien simple !» dit-il tout à coup à voix basse, répondant à d'interrogantes pensées intérieures plus basses encore. « Marche Noire est en fort bon terme avec Desbois qui est riche, lui. Je déciderai sans doute le docteur à faire quelque chose. » Sa figure s'éclaira. Le cordial de cette résolution ayant réconforté cette belle âme, et il put relire, avec la clairvoyance rapide d'un contempteur de la petite bête littéraire, les phrases collantes et albumineuses espérées par 2000 salons. Chapitre 5. Le docteur Chérubin Desbois habite un appartement somptueux dans le milliardaire quartier de l'Europe, au plus bel endroit de la rue de Madrid. C'est le médecin du monde exquis, le thérapeute des salons, l'exorciste délicat des petites névroses distinguées. À peine au début de sa brillante carrière, il a déjà conquis des avenues et des boulevards. Ses grâces personnelles, faites de rien du tout, comme sa science même, passent généralement pour irrésistibles. sa petite tête ascendante et mobile de casoar consultant est habilement scrutatrice à la manière d'un spéculum qui aurait d'aimables sourires. Casuiste médical plein de mystères et conjecturant brochurier plein d'intentions, mais thaumaturge hypothétique. Il serait peut-être le premier docteur du monde pour guérir les gens de mettre le pied chez lui, s'il n'avait reçu l'admirable don de tranquilliser Cypris ulcéré et d'attirer ainsi une vaste clientèle de muqueuses aristocratiques dont il est devenu le tentaculaire confident. Curieux d'alchimie et de traditions occultes, mais sans archaïque manipulation de substances, jobardement épris de toute absconce doctrine capable de travestir son néant, fanatique de littérature décente et d'art correct, ami respectueux de cabots puissants, tels que Coquelin Cadet, ou d'avares scribes, tels que Georges Honnête, prototypes accomplis des relations de son choix. Il gratifie d'excellents dîners tous les estomacs influents qu'il suppose coutumiers de reconnaissante digestion. On l'a dit un peu plus haut, le lamentable Marche Noire avait eu sa minute de célébrité. On avait pu penser un moment qu'il allait s'asseoir dans une situation formidable. Le docteur aussitôt rêva de l'annexer. Marche Noire était alors, comme il fut tant de fois, dans une de ces agonies où le lycanthrope le plus imprenable s'abandonne à la moite main qui veut le saisir, au lieu de la trancher férocement d'un coup de mâchoire. Puis, le misérable était ainsi fait, pour sa confusion et son indicible rage, que la grimace de l'amour l'avait toujours vaincu, et qu'il se trouvait toujours désarmé devant l'expression postiche de la plus manifestement droguée des bienveillances. Desbois, s'étant arrangé pour le rencontrer comme par hasard, sut entrer avec une souplesse fondante dans les sentiments du pamphlétaire, et emporta, presque sans effort, les sauvages répugnances du révolté. Il obtint que Marche Noire déjeunât chez lui, sans témoin. « Mon cher monsieur Marche Noire, lui dit-il sur-le-champ, je gagne 100 000 francs par an et je les dépense. Par conséquent, je suis pauvre, plus pauvre que vous peut-être, à cause des charges écrasantes qui résultent de ma situation même. Je suis donc en état de très bien comprendre certaines choses. Permettez-moi de vous parler avec une entière franchise. Vous êtes évidemment appelé au plus brillant avenir littéraire, mais je sais que vous êtes momentanément embarrassé. Droit au but. Je mets 25 louis à votre disposition. Acceptez-les sans façon, comme d'un ami qui croit en vous et qui serait heureux de pouvoir vous offrir bien davantage. » Cela fut si parfaitement dit et d'une cordialité si sûrement décochée que le pauvre Marche Noire, ravagé d'angoisse provenant du manque d'argent, menacé d'imminentes catastrophes et croyant voir le ciel s'entrouvrir, accepta sans délibérer, avec un enthousiasme imbécile. Quant à Desbois, il était bien trop habile et complexe pour comprendre quoi que ce fût à la simplicité incroyablement rudimentaire d'un tel homme, et il se tint pour assuré d'avoir conclu un heureux marché. Cette amitié, si étrangement assortie, fut quelque temps sans nuage. Mais un jour, Marche Noire ayant commencé de broncher dans la vivifiante estime des journaux, le chérubin docteur commença d'être oraculaire. Avec d'infinies mesures, en de circonspectes exhortations, ce dernier fit comprendre à son hôte que le bon sens était tenu de réprouver l'absurde inflexibilité de ses principes, que le bon goût endurait, par ses insolences écrites, un intolérable grille, qu'il fallait soigneusement se garder de croire qu'une si farouche indépendance d'esprit fût un rail rigide pour arriver à l'indépendance par l'argent. Enfin, qu'on avait espéré beaucoup mieux de lui, et qu'on était navré de tout ça jusqu'à l'effusion des larmes. En même temps, des paroles moins humides et beaucoup plus nettes étaient dites à un tiers commensal qui s'empressa de les répéter à marche noire. On se plaignait de ces visites abusivement fréquentes, et la vie privée de ce vaincu ne fut pas exemptée de blâme. On le savait vivant avec une jeune femme, et le mot infamant de « collage » fut prononcé. C'était la fin. Marche Noire ramassa tous ses propos au ras de l'ordure et les flanqua, pêle-mêle, avec l'argent, comme un tas de trésors, dans une incorruptible caisse de cèdre, bardée d'un airain vibrant au plus profond de son cœur. Chapitre 6. La loi des attractions proportionnelles devait au contraire infailliblement précipiter l'un vers l'autre et souder ensemble Alexis Dulaurier et le docteur Chérubin des Bois. Évidemment, de telles âmes avaient été créées pour fonctionner à l'unisson. Ils n'avaient à déplorer que de s'être rencontrés si tard. Ils se connaissaient par malheur depuis peu de temps. Quoiqu'ils fréquentassent à peu près les mêmes salons, l'un raffermissant et cicatrisant ce que l'autre se contentait de lubrifier, un inconcevable guignon avait longtemps écarté les occasions, qui eussent dû être sans nombre, d'une si désirable conjonction. Cette circonstance, regrettable au point de vue de l'entrelac de leurs esprits, avait été providentielle pour Marche Noire, que le consciencieux Dulaurier n'aurait jamais permis de se gourir avec un tel faste, s'il avait pu être consulté. Si maintenant celui-ci venait de lui-même inciter des bois à de nouvelles largesses, c'était uniquement, comme on vient de le voir, pour ménager une amitié dangereuse encore, bien que jugée inutile, en préservant au meilleur marché, du maculant soupçon de ladrerie, sa pure Hermine d'excellent enfant. C'est toujours une allégresse chez le docteur quand Dulaurier s'y présente. De part et d'autre, on se placarde de sourires, on se plastronne de simagrées affectueuses, on se badigeonne au lait de chaud d'une sépulcrale sensibilité. C'est un négoce infini de filasses sentimentales, d'attendrissements hyperboréens, de congratulatoires frictions, de susurrements apologétiques, de petites confidences pointues ou fendillées, d'anecdotes et de verdicts, une orgie de médiocrité à 50 services dans le dé à coudre de l'insoupçonnable femelle de César. Car ces fantoches sont, à leur insu, des majestés fort jalouses, et c'est une question de savoir si Dieu même, avec toute sa puissance, arriverait à leur inspirer quelque incertitude sur l'irréprochable beauté de leur vie morale. C'est peut-être l'effet le moins aperçu d'une dégringolade française de 15 années, d'avoir produit ces dominateurs, inconnus des antérieures décadences, qui règnent sur nous sans y prétendre et sans même s'en apercevoir. C'est la surhumaine oligarchie des inconscients et le droit divin de la médiocrité absolue. Ils ne sont, nécessairement, ni des eunuques, ni des méchants, ni des fanatiques, ni des hypocrites, ni des imbéciles affolés. Ils ne sont ni des égoïstes avec assurance, ni des lâches avec précision. Ils n'ont pas même l'énergie du scepticisme. Ils ne sont absolument rien. Mais la terre est à leurs pieds, et cela leur paraît très simple. En vertu de ce principe qu'on ne détruit bien que ce qu'on remplace, il fallait boucher l'énorme trou par lequel les anciennes aristocraties s'étaient évadées comme des ordures, en attendant qu'elles refluassent comme une pestilence. Il fallait condamner à tout prix cette dangereuse porte, et les acéphales furent élus pour chevaucher un peuple de décapités. Ainsi, la fille aînée de l'Église, devenue la salope du monde, les a triés avec une sollicitude infinie, ces lys d'impuissance, ces nénuphars bleus, dont l'innocence ravigote sa perverse décrépitude. Si l'exterminateur arrivait enfin, il ne trouverait plus une âme vivante dans les quartiers opulents de Paris. Rien aux Champs-Élysées, rien au Trocadéro, rien au Parc Monceau, trois fois rien au Faubourg Saint-Germain, et sans doute, il dédaignerait angéliquement de frapper du glaive les simulacres humains pavés de richesses qu'il y découvrirait. Chapitre 7. Du Laurier ne parla pas immédiatement de Marche Noire. Par principe, il ne parlait jamais immédiatement de rien, et rarement ensuite se décidait-il à parler avec netteté de quoi que ce fût. Il gazouillait des conjectures et s'en tenait là, abandonnant les grossièretés de l'affirmation aux esprits sans délicatesse. Cette fois, pourtant, il fallut bien en venir là. « J'ai reçu une lettre de Marche Noire, » commença-t-il. « Le pauvre diable m'écrit de Périgueux que son père est à l'agonie. La mort était attendue hier matin. Il me demande, d'une manière presque impérieuse, de lui envoyer 15 louis, aujourd'hui même, pour les funérailles. Il a l'air de croire que j'ai des paquets de billets de banque à jeter à la poste. Mais il paraît affligé, et je suis fort embarrassée pour lui répondre. » « Je ne vois pas d'autre réponse que le silence, » prononça Desbois. « Marche Noire est un orgueilleux et un ingrat qu'il faut renoncer à secourir utilement. Il méprise et offense tout le monde, à commencer par ses meilleurs amis. J'ai voulu le tirer d'affaire, et il s'en est fallu de peu qu'il ne me mît dans l'embarras. C'est assez comme cela. Je n'ai pas le droit de sacrifier mes intérêts et mes devoirs d'homme du monde à un personnage de mauvaise compagnie qui finirait par me compromettre. Il a du talent, c'est bien dommage. Oui, mais quelle odieuse brutalité! Si vous saviez le ton qu'il apportait ici, il paraissait ne faire aucune différence entre ma maison et une écurie qui eût été l'annexe d'un restaurant. Heureusement, je ne l'ai jamais reçu quand j'avais du monde. Il prenait à tâche de dire du mal de tous mes amis. Un jour, malgré mes précautions, il rencontra mon vieux camarade honnête, à qui il ne peut pardonner son succès. Eh bien, il affecta de le considérer comme une épluchure. Vous conviendrez que ce n'est pas fort agréable pour moi. Croiriez-vous qu'il avait pris l'habitude de manger constamment de l'ail et qu'il empestait de cette infâme odeur mon appartement et jusqu'à mon cabinet de consultation? Je me suis vu forcé de le consigner. Et je crois qu'il a fini par comprendre, car il a cessé de venir depuis 2 ou 3 mois. Il est malheureux. Il faut avoir pitié de lui. Tout mon spiritualisme est là, mon Desbois. Il n'y a de divin que la pitié. Je vois Marche Noire tel que vous le voyez vous-même, et je pourrais faire les mêmes plaintes. Je lui ai bien souvent, et combien vainement, reproché son intolérance et son injustice. Lui-même, il s'accuse d'avoir fait mourir son père de chagrin. Il ne m'a jamais répondu que par le mépris et l'injure. Une fois, ne s'est-il pas emporté jusqu'à me dire qu'il ne m'estimait pas assez pour me haïr? Il est vrai que je lui avais rendu moi aussi quelques services, mais il m'a laissé entrevoir que je devais me sentir fière d'avoir été sollicitée par un homme de son mérite. Il faut en prendre son parti, voyez-vous. Cet énergumène catholique est ingrat, mais pas vulgaire, et c'est assez pour qu'on en puisse jouir. Vous rappelez-vous ce fameux esclave des solennités triomphales de l'ancienne Rome, chargé de tempérer l'apothéose en insultant le triomphateur? Telle est Marche Noire. Seulement, sa journée finie et sa hôte d'injures vidée, il s'en va tendre humblement la main pour l'amour de Dieu, à cela même qu'il vient d'inonder de ses outrages. Ne pensez-vous pas qu'il serait criminel de décourager cette industrie? Du Laurier étant expulsé ces choses, une brise de contentement passa sur son cœur. Il se replanta sous l'arcade un instable monocle que l'émotion du discours en avait fait tomber, et, levant son verre, il regarda le docteur en homme qui va porter un toast à la justice éternelle. Mais que voulez-vous donc que je fasse? Repartit Desbois. Je ne peux pourtant pas le prendre chez moi avec son ail et ses perpétuelles fureurs. Assurément, mais ne pourriez-vous une dernière fois le secourir de quelque argent? Il s'agit d'enterrer son père, et le cas est grave, ainsi qu'il me l'écrit lui-même, avec une légère nuance de menace, le pauvre garçon. La pitié doit intervenir ici. Par malheur, je ne peux rien, ou presque rien, en ce moment. Ma récente promotion m'ayant forcé à des dépenses infinies. Je ne veux pas vous le dissimuler, Desbois. J'ai espéré vous attendrir sur ce malheureux. En toute autre circonstance, je ne vous eusse pas importuné de cette mince affaire. Vous me connaissez. J'aurais fait ce qu'il désire sans hésitation et sans phrase. Mais je suis étranglé, et précisément parce qu'il me suppose comblé des dons de la fortune, je craindrais qu'il ne se crût en droit de m'accuser d'une dureté sordide si je n'accomplissais ostensiblement aucun effort. » La voix chantante de Dulaurier était descendue du soprano des vengeresses subsanation jusqu'aux notes gravement onctueuses d'un baryton persuasif. Il avait su ce qu'il faisait, ce légionnaire, en rappelant, d'un seul mot explicativement détaché, sa décoration toute fraîche et close. Cette boutonnière était extrêmement agissante sur le docteur, pour qui elle représentait une irréfragable sanction des préférences esthétiques de son milieu. L'auteur de « Douloureux mystère » ayant surtout attrapé ce signe de grandeur à force de rapetisser la littérature. Le juteux succès de son dernier livre, irréprochablement glabre, avait été l'occasion, longtemps espérée, de cette récompense nationale, dont le titulaire, un beau matin, reçut la nouvelle. À l'heure précise où l'un des plus rares écrivains de la France contemporaine accueillait, en pleine figure, le 45e coup de poing hebdomadaire de ses fonctions de « moniteur » dans une salle de boxe anglaise, aux appointements de 60 francs par mois, pour nourrir son fils. Chapitre 8. Soit, conclut Desbois, après un assez long combat. Par considération pour vous, Dulaurier, je consens à faire encore un sacrifice. Mais songez-y, ce sera le dernier. Je me croirais coupable si j'encourageais l'orgueil et la paresse de ce garçon, qui n'est malheureux que par sa faute, vous en convenez vous-même. Voici 3 louis. Je ne puis ni ne veux donner davantage. Envoyez-lui cet argent comme vous le jugerez convenable. Vous m'obligerez en lui faisant comprendre qu'il ne doit plus rien espérer de moi. » En conséquence, le poète Sigis-Béen des fleurs psychologiques du grand monde jetait à la poste, le soir même, un message ainsi libellé. « Mon cher Marchenoir, votre lettre m'a fait beaucoup de peine. Vous savez combien est vraie mon amitié pour vous. En dépit des superficielles différences d'opinion qui ont pu l'altérer, et vous ne pouvez pas douter de la part sincère que je prends à votre chagrin. Je sais trop ce que c'est que de souffrir, quoi que vous en pensiez, et personne peut-être n'a senti aussi douloureusement que moi, depuis Lord Byron, le mal d'exister. Je me suis appelé moi-même, dans un poème du plus désolant scepticisme, une âme à la fois exaspérée et lasse. Rien de plus vrai, rien de plus triste. Vous m'avez quelquefois reproché, bien à tort, ce que vous appeliez mon indifférence et ma légèreté, sans tenir compte des déchirements affreux d'une vie écartelée à 20 misères. Votre demande d'argent m'a plongé dans le plus cruel embarras. Vous me croyez riche sur la foi de succès fort exagéré qui compense bien faiblement des années d'obscur labeur et de continuel effort pour imprégner d'idéalisme les plus répugnantes vulgarités. Apprenez que je suis très pauvre et par conséquent très éloigné de pouvoir, même en me gênant, vous envoyer ce que vous me demandez. Cependant, je n'ai pas voulu vous faire une réponse aussi affligeante avant d'avoir essayé une démarche. J'ai donc été chez Desbois, à qui j'ai fait connaître votre situation. Il vous aime beaucoup, lui aussi, mais vous l'avez froissée comme tant d'autres. Souffrez que je vous le dise amicalement, mon cher Marchenoir. Votre inflexible caractère a toujours rebuté les gens les mieux disposés. Je vous ai défendu avec toute la chaleur de mon amitié pour vous, sans pouvoir surmonter ces préventions. J'espérais obtenir la somme entière, et ce n'est qu'à force d'instances et de guerres lasses qu'il a consenti à me remettre pour vous 60 francs, en me chargeant de vous avertir que toute tentative du même genre serait désormais inutile. Je joins de bon cœur à cet argent les 2 louis nécessaires pour vous compléter 100 francs. Et je vous jure, Marchenoir, qu'il a fallu l'horrible urgence du cas pour que je me décidasse en ce moment à un pareil sacrifice. Cependant, je le prévois bien, vous allez dire qu'on marchande un misérable service, et vous ferez d'amères plaintes sur ce que vous ne pouvez réaliser pour votre père les funérailles excessives que vous aviez rêvées. Mais mon pauvre ami, nul n'est tenu à l'impossible, et il n'y a aucun déshonneur à s'en tenir à la fosse commune quand on ne peut faire les frais d'une sépulture moins modeste. Je sais que je vous afflige en parlant ainsi, mais ma conscience aussi bien que ma raison me dicte ce langage. Et, comme catholique, vous n'avez pas le droit de repousser une exhortation à l'humilité chrétienne. « Pourquoi, me disait le docteur, Marchenoir ne resterait-il pas à Périgueux ? Il y serait assurément beaucoup mieux qu'à Paris, où il est aussi mal que possible. Il y trouverait infailliblement des amis de sa famille, d'anciens condisciples, qui seront heureux de lui procurer des moyens d'existence. Je trouve qu'il a raison, et je ne puis m'empêcher de vous donner le même avis. Prenez-le en bonne part, comme venant d'une âme unie de tristesse à la vôtre et qui a renoncé depuis longtemps à toute illusion. La littérature vous est interdite. Vous avez du talent, sans doute, un incontestable talent. Mais c'est pour vous une non-valeur, un champ stérile. Vous ne pouvez vous plier à aucune consigne du journal, et vous êtes sans ressources pour subsister en faisant des livres. Pour vivre de sa plume, il faut une certaine largeur d'humanité, une acceptation des formes à la mode et des préjugés reçus dont vous êtes malheureusement incapable. La vie est plate, mon cher Marchenoir, il faut s'y résigner. Vous vous êtes cru appelé à faire la justice, et tout le monde vous a abandonné, parce qu'au fond, vous étiez injuste et sans charité. Croyez-moi, renoncez à la littérature, et faites courageusement le premier métier venu. Vous êtes intelligent, vous avez une belle écriture, je vous crois appelé à un infaillible succès dans n'importe quelle autre carrière. Tel est le conseil désintéressé d'un homme qui vous aime sincèrement et qui serait heureux d'apprendre que vous avez enfin trouvé votre véritable voie. Votre dévoué, Alexis Dulaurier. Chapitre 9. Un éternel mouvement dans le même cercle, une éternelle répétition, un éternel passage du jour à la nuit et de la nuit au jour, une goutte de larmes douces et une mer de larmes amères. Ami, à quoi bon, moi, toi, nous tous, vivons-nous? À quoi bon vécurent nos aïeux? À quoi bon vivront nos descendants? Mon âme est épuisée, faible et triste. Ces lignes furent écrites dans les dernières années du siècle passé par l'historien Karamsine. On le voit, l'étrange Russie était déjà travaillée de ce célèbre désespoir qui descend aujourd'hui, comme un dragon d'Apocalypse, des plateaux slaves sur le vieil Occident accablé de lassitude. Ce dévorateur des âmes est si formidable, dans sa lente mais invincible progression, que toutes les autres menaces de la météorologie politique ou sociale commencent d'apparaître comme rien devant cette menace théophanique, dont voici l'épouvantante et trilogique formule inscrite en bâtarde de feu sur le pennon noir du nihilisme triomphant. Vive le chaos et la destruction. Vive la mort. Place à l'avenir. De quel avenir parlent-ils donc, ces espérants à rebours, ces excavateurs du néant humain? Il ne s'arrange pas des fins dernières notifiées par le catholicisme et proteste avec rage contre l'intolérable déni de justice d'une imbécile évasion de l'âme pensante dans la matière. Quoi donc alors? Nul ne peut le dire, et jamais la pauvre mécanique raisonnable n'avait enduré les affres d'une telle agonie. On s'est raccroché autant qu'on l'a pu, on a essayé de toutes les amarres et de tous les crampons du rationalisme ou du mysticisme humanitaire pour ne pas tomber jusque-là. Tout vésicatoire philosophique, supposé capable de ressusciter un instant le souffle de l'espérance, a été appliqué à cette phtisique, depuis l'hiérophante Saint-Simon, qui parlait de rédemption, jusqu'au patriarche des nihilistes, Alexandre Herzen, qui en parlait aussi. Prêchez la bonne nouvelle de la mort, dit ce dernier. Montrez aux hommes chaque nouvelle plaie sur la poitrine du vieux monde, chaque progrès de la destruction. Indiquez la décrépitude de ses principes, la superficialité de ses efforts. Montrez qu'il ne peut guérir, qu'il n'a ni soutien, ni foi en lui-même, que personne ne l'aime réellement, qu'il se maintient par des mésentendus. Montrez que chacune de ses victoires est un coup qu'il se porte. Prêchez la mort comme bonne nouvelle, comme annonce de la prochaine rédemption. Tel est le gravitant absolu de doctrine que nul cric religieux ne déplacera jamais plus. Négation absolue de tout bien présent et certitude absolue de récupérer l'Éden après l'universelle destruction. Antimème délateur du néant, de la vie par le néant de la mort, dernier acculement de l'orgueil, sommant une suprême foi l'X de la justice au nom de toute la douleur terrestre, d'accorder enfin autre chose que le simulacre d'une rédemption ou de raturer, comme un solécisme, en même temps que la malheureuse race humaine, l'inexpiable infini de notre nature. Cette pensée terrible, cette convoitise de « derrière le cœur », s'est jetée sur la société moderne et l'a enveloppée comme un poulpe. Les plus myopes esprits commencent à comprendre qu'elle est en train de confectionner un fameux cadavre, le cadavre même de la civilisation. Aussi grand que 50 peuples, dont les chiens sans Dieu se préparent à ronger le crâne en Occident, pendant que ses pieds putréfiés répandront la peste au fond de l'Orient. Expectans expectavi, attendre en attendant. Les 1000 ans du Moyen-Âge ont chanté cela. L'Église a continué de le chanter depuis l'égorgement du Moyen-Âge par les savantas bourgeois de la Renaissance, comme si rien n'avait changé de ce qui pouvait donner un peu de patience, et maintenant, on en a tout à fait assez. Attendre 50 siècles à la marge enluminée d'un livre d'heures saturé de poésie, comme un de ces expectants patriarches, au sourire fidèle, qui regardent sempiternellement pousser des cèdres sortis de leur ventre, passe encore. Mais attendre sur un trottoir venu de Sodome, en plein milieu de la retape électorale, dans le voisinage immédiat de l'Américain ou de Tortoni, avec la crainte ridicule de mettre le pied dans la figure d'un premier ministre ou d'un chroniqueur, c'est décidément au-dessus des forces d'un homme. C'est pourquoi tout ce qui a quelque quantité virile, depuis une 30aine d'années, se précipite éperdument au désespoir. Cela fait toute une littérature qui est véritablement une littérature de désespérés. C'est comme une loi toute despotique à laquelle il ne semble pas qu'aucun plausible poète puisse désormais échapper. Il ne faut pas chercher cette situation inouïe des âmes supérieures en un autre point de l'histoire que cette fin de siècle, où le mépris de toute transcendance intellectuelle ou morale est précisément arrivé à une sorte de contrefaçon du miracle. Antérieurement, à Baudelaire, on le sait trop, il y avait eu Lord Byron, Chateaubriand, Lamartine, Musset. postiches lamentateurs qui trempèrent la soupe de leur gloire avec les incontinentes larmes d'une mélancolie bonne fille qui leur partageait ses faveurs. Or, qu'est-ce que le vague passionnel de l'incestueux René, bâtard de Rousseau, ou la frénésie décorative de Manfred, auprès de la tétanique bave de quelques réprouvés tels que Baudelaire, Ackermann, Ernest Hello, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine, Huysmans ou Dostoïevski? Ceux-là ne se souviennent plus des cieux, blague la Martinienne tant admirée. Ils ne s'en souviennent plus du tout. Mais ils se souviennent de la tangible terre où ils sont forcés de vivre, au sein de l'ordure humaine, dans une irrémédiable privation de la vue de Dieu, quel que soit leur concept de cette entité substantielle, avec un désir enragé de s'en repaître et de s'en saouler à toute heure. À cette profondeur de spirituelle infortune, il n'y a plus qu'une seule torture, en qui toutes les autres se sont résorbées pour lui donner une épouvantable énergie. Je veux dire, le besoin de la justice, nourriture infiniment absente. Parbleu, ils savent ce que disent les chrétiens, ils le savent même supérieurement. Mais il faut une foi de tous les diables, et ce n'est pas la vue des chrétiens modernes qui la leur donnerait. Alors, ils produisent la littérature du désespoir, que de sentencieux imbéciles peuvent croire une chose très simple, mais qui est en réalité une sorte de mystère, annonciateur d'on ne sait quoi. Ce qui est certain, c'est que toute pensée vigoureuse est maintenant poussée, emportée, balayée dans cette direction, aspirée et avalée par ce maelstrom. Serait-ce que nous touchons enfin à quelque solution divine dont le voisinage prodigieux affolerait la boussole humaine? L'un des signes les moins douteux de cet acculement des âmes modernes à l'extrémité de tout, c'est la récente intrusion en France d'un monstre de livre, presque inconnu encore, quoique publié en Belgique depuis 10 ans. Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont, œuvre tout à fait sans analogue et probablement appelée à retentir. L'auteur est mort dans un cabanon, et c'est tout ce qu'on sait de lui. Il est difficile de décider si le mot « monstre » est ici suffisant. Cela ressemble à quelque effroyable polymorphe sous-marin qu'une tempête surprenante aurait lancé sur le rivage après avoir saboulé le fond de l'océan. La gueule même de l'imprécation demeure béante et silencieuse au conspect de ce visiteur, et les sataniques litanies des fleurs du mal prennent subitement, par comparaison, comme un certain air d'anodine bondieuserie. Ce n'est plus la bonne nouvelle de la mort du bonhomme Herzen, c'est quelque chose comme la bonne nouvelle de la damnation. Quant à la forme littéraire, il n'y en a pas. C'est de la lave liquide. C'est insensé, noir et dévorant. Mais ne semble-t-il pas à ceux qui l'ont lu que cette diffamation inouïe de la Providence exhale, par anticipation, avec l'inégalable autorité d'une prophétie, l'ultime clameur imminente de la conscience humaine devant son juge ?